On va faire une comparaison entre, comment dire, la philosophie du musulman, du bouddhiste, de l'incrédule, de l'homme du monde athée et du chrétien. Non pas, je ne parle pas ici de la base du salut. Ce que je veux dire du christianisme, ce n'est pas la base du salut, mais ce qui fait sa règle de vie qu'il va essayer de suivre durant sa vie. Alors pour ça, je vous invite à faire des petits dessins. C'est pour ça que vous avez un certain nombre de carrés, là vous en avez quatre, et vous allez dessiner la règle de vie de ces quatre personnes au fur et à mesure que je les fais sur le papier au tableau. Si on prend l'islam, je me suis arrangé pour que ça fasse cinq choses, puis quatre choses, puis trois, puis deux. Bon, c'est un peu une pirouette, hein, mnémotechnique, mais c'est juste pour qu'on puisse s'en rappeler plus facilement. Un musulman, lui, il a cinq règles de vie. C'est ce qu'on appelle les cinq piliers de l'islam. Alors je vais les dessiner au fur et à mesure. Ça va vous rappeler quelque chose. Premier pilier, il doit faire une profession de foi, il doit affirmer que Dieu est le seul Dieu et que Mahomet est son prophète. Ça, c'est le pouce de la main. Ensuite, deuxième règle de vie, il doit faire cinq prières quotidiennes tournées vers la Mecque. Ça fait un deuxième point. Ensuite, il doit respecter le Ramadan, donc le jeûne de 40 jours, au moment où Mahomet est dans l'exil. Ensuite, il doit faire l'aumône, il doit donner aux pauvres. Ça fait un quatrième. Si possible, il doit faire un pèlerinage à la Mecque une fois dans sa vie. Et donc, c'est ce qu'on appelle la main de Fatima. Vous avez peut-être vu des musulmans ou des jeunes filles musulmanes avec un pendentif, avec une main à cinq doigts. C'est les cinq piliers de l'islam. Donc, un musulman dans sa vie, eh bien, son objectif, c'est de faire ça, c'est de réussir ça. Bon, quelquefois, on rajoute un sixième pilier de l'islam qui est le djihad, c'est-à-dire la guerre sainte. Alors, je vous propose de l'ajouter sous cette forme. J'ajoute une petite mèche avec une étincelle. Ça, c'est le djihad. Donc, ça, c'est la philosophie du musulman. Il va passer sa vie dans cet objectif-là. On va parler du bouddhiste maintenant. C'est moins connu. Pourtant, le bouddhisme est à la mode, mais si vous demandez aux gens quelles sont les bases du bouddhisme, personne ne connaît. C'est ce qu'on appelle les quatre nobles vérités que Bouddha, après avoir passé 48 jours sous un figuier, a découvertes. Ces quatre nobles vérités sont les suivantes. Alors, je vais faire un carré simplement, hein. On pourrait le faire différemment, il y a une autre manière de le dessiner. La première vérité, c'est que la vie est souffrance. On peut faire un cercle pour dire que la vie est souffrance. C'est le cercle infernal de la souffrance. Voilà, c'est comme ça. La vie est souffrance. C'est ce qu'a constaté Bouddha. D'où vient cette souffrance? Il a compris que la souffrance venait du désir. C'est-à-dire qu'on désire des choses. Notre corps désire des choses, et comme on n'arrive pas toujours à avoir les choses qu'on désire, ben on en souffre. Ben oui, que voulez-vous? C'est comme ça. Alors, Bouddha a dit, eh bien, la solution, troisième principe, la solution pour ne pas souffrir, pour être heureux, c'est de supprimer le désir. Je n'écoute plus mes désirs. Aucun désir. À partir de là, je vais être parfaitement heureux. Mais ensuite, il s'est dit que c'était quand même un peu trop dur de supprimer complètement le désir. Alors, quatrième principe, quatrième noble vérité, il faut opter pour ce qu'on appelle la voie moyenne, c'est-à-dire il faut essayer de ne pas répondre tout à fait à tous ses désirs, de freiner de plus en plus les désirs pour arriver à la fin à ne plus en avoir aucun, hein, ce qu'il appelle la voie moyenne. Et alors quand on arrive au quatrième principe, qu'on a fini par tout doucement faire diminuer le désir en nous, à la fin, si vous arrivez à faire ça pendant votre vie, quand vous allez mourir, vous n'allez pas réincarner, comme disent les hindouistes, mais vous allez partir directement dans le nirvana. Parce que nirvana, ça veut dire extinction. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le lieu où tous vos désirs sont éteints. Donc, vous êtes parfaitement heureux. Voilà. Donc, plus de désirs, donc parfait bonheur. Voilà l'espérance du bouddhiste. Et il va passer sa vie à essayer de juguler le désir en lui. C'est sa philosophie. On passe maintenant au monde. Petit clin d'œil, c'est parce que vous avez quelqu'un qui médite en position du lotus, là, hein, qui fait du yoga, si vous voulez. On passe à la philosophie du monde. Alors, on va se baser sur ce qu'en dit la première épître de Jean. Donc, ça, c'est le non-croyant, ça c'est son ventre. Il est gros son ventre parce que, comme dit une épître, son Dieu est le ventre. Le centre du monde, il est là, c'est son nombril. Donc voilà la personne du monde. Et cette personne, elle va être animée par un certain nombre de règles qui vont guider sa vie. Si vous voulez, son but, c'est plusieurs choses. Quand on est athée, qu'on ne croit pas en Dieu, qu'on est au centre du monde, ben, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de posséder un maximum de choses. Première chose. On va essayer d'avoir un maximum de plaisir, et puis on va essayer de monter le plus haut dans la société. Et un peu comme une fusée, là, avec un gros ventre. Alors qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est tout simplement ce que la première épître de Jean appelle la convoitise des yeux, vouloir posséder ce que l'on voit, la convoitise de la chair, avoir un maximum de plaisir, et l'orgueil de la vie, c'est-à-dire essayer de s'élever au-dessus des autres. Voilà les trois règles de vie de l'athée qui se considère comme le centre du monde. Pourquoi voulez-vous qu'il pense autrement? Il est le centre du monde. Donc il faut que tout le serve. Et donc il a un maximum de possession, de plaisir et de hauteur dans la société. Et alors on va mettre à côté de ça la philosophie du chrétien. Je ne dis pas le moyen de salut, ça c'est la foi au Seigneur Jésus, mais je dis ce qui va nous animer pendant notre vie. Eh bien, on va revenir sur cette définition de la loi que j'ai donnée tout à l'heure. Le chrétien, il y a deux choses. Alors, tout est basé sur l'amour déjà. Donc, je vais faire un cœur quand même. Tout est basé sur l'amour. Et il y a deux choses qu'il va rechercher. Il va chercher à aimer le Seigneur son Dieu de tout son cœur. Donc, c'est vertical, hein? Aimer Dieu. Aimer le Seigneur son Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme, et son prochain comme lui-même. Et ça nous fait une croix, basée sur l'amour. Voilà. Aimer le Seigneur son Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme, et son prochain comme soi-même, à égalité. Je ne suis pas nul dans le christianisme, mais je compte pas plus que mon prochain. Voilà, la question c'est de savoir, qu'est-ce qui vous fait vivre aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous intéresse dans tout ça? Qu'est-ce que vous prenez comme philosophie? Une fois que vous avez cru au Seigneur Jésus, eh bien soit vous êtes, on peut dire, son disciple, c'est lui qui est votre maître à penser, alors vous allez aimer Dieu, et puis vous allez aimer votre prochain, ou alors vous choisissez une autre. C'est ça, avoir le Seigneur Jésus comme maître. Alors, on va passer maintenant au deuxième aspect du maître, qui est le chef. Parce que, évidemment, le maître, c'est pas seulement quelqu'un qui parle, qui nous donne un enseignement, que nous adoptons, mais c'est aussi quelqu'un qui va nous commander. Alors, on va se poser cette fois-ci la question non plus, est-ce que je suis son élève, son disciple, est-ce que je suis son sujet, est-ce que je suis son serviteur, est-ce que j'obéis à ses ordres? Alors, ça va nous poser un peu une question, on est obligé d'aborder la question du légalisme. Est-ce qu'il y a des lois dans le christianisme? Est-ce que le Seigneur Jésus nous donne des commandements? Certains diront non, 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 la loi c'est fini. Si, quand même. Parce que n'oublions pas que dans Jean 13, verset 34, le Seigneur le dit lui-même. Alors on va lire ce verset. Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez l'un l'autre. Donc c'est bien que le Seigneur nous donne des commandements. Et puis, quand j'ai dessiné cette croix, j'ai fait allusion donc à ces deux grands commandements que le Seigneur a mis en avant, a bien souligné pour dire que tout le reste en découlait. Donc c'est bien que le Seigneur Jésus, à nouveau, se base sur des commandements. Moi, je crois que dans la vie chrétienne, il y a des commandements à observer. J'en veux pour preuve que dans les Épîtres, vous avez un très très grand nombre d'impératifs, de phrases à l'impératif, auxquelles il faudra ajouter les participes présents. Dans la forme grecque, le participe présent prolonge un impératif. Je n'ai pas d'exemple qui me vient à l'esprit, mais très souvent, hein, vous allez voir que dans une phrase, il y a un impératif et ensuite, tous les autres verbes sont participes présents. Il y a des listes, par exemple, d'impératifs comme ça, même dans les Épîtres, hein, pas seulement dans les Évangiles. Dans Romains 12, la fin du chapitre 12 de Romains, on peut le regarder rapidement si vous voulez, vous avez une succession de 28 impératifs. De choses qu'il faut faire quand on est chrétien, eh bien, on fait ces choses-là. Ce sont des commandements. Romains 12, on va lire juste le début. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez en horreur le mal, tenez ferme au bien. Quant à l'amour fraternel, soyez plein d'affection les uns pour les autres. Quant à l'honneur, étant les premiers à le rendre aux autres. Et ainsi de suite, vous avez 28 commandements, 28 impératifs, 28 exhortations qui nous sont données. Même chose si on regardait à 1 Thessaloniciens 5, vous avez là 14 impératifs qui sont donnés. Bon, et ainsi de suite. Ensuite, on pourrait en trouver un peu plus dispersés dans notre passage. Quand j'ai réfléchi à ça, je me suis dit, tiens, je vais prendre une feuille de papier et je vais noter tous ceux qui me viennent à l'esprit. Et je m'étais dit quand même, je vais les classer. Des enseignements, des commandements, des exhortations à l'impératif qui me concernent par rapport à moi-même, d'autres qui me concernent par rapport à mon prochain, et d'autres qui me concernent par rapport à Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de moi par rapport à moi-même? Qu'est-ce que Dieu attend de moi par rapport à mon prochain? Qu'est-ce que Dieu attend de moi par rapport à lui directement? Et voilà, une liste de ce que j'ai trouvé. Mais alors on pourrait la prolonger vraiment beaucoup. Pour moi-même, par rapport à mon propre corps, mon propre être, fuyez la fornication. Soyez sobre en toutes choses. Chaque fois, on pourrait chercher la référence. Hein. Soyez remplis de l'esprit, étant content de ce que vous avez présentement. Réjouissez-vous toujours. Peut-être le dernier, le plus difficile. Par rapport à mon prochain, enfants, obéissez à vos parents. Ça, c'est pour les enfants. Père, n'irritez pas vos enfants. C'est pour les parents. Mari, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises à vos maris. Que l'un estime l'autre supérieur à lui-même. Si ton frère a péché, va, reprends-le. S'il t'écoute, tu lui pardonneras. Vous appliquant l'hospitalité. Obéissez à vos conducteurs, éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon, soyez soumis aux autorités, dites la vérité, aimez vos ennemis, ne vous mettez pas sous un joug mal assorti, faites disciples toutes les nations. Là encore le dernier, tout un programme, évangélisez. Et puis par rapport à Dieu directement, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Offrez vos corps en sacrifice vivant. Alors celui-là, ça me paraissait le plus difficile, mais je l'ai quand même mis au début parce qu'il me semble que c'est en même temps un préalable un peu. Si on réalise celui-là, ensuite les autres sont assez naturels. Priez sans cesse, en toutes choses rendez grâce, applique-toi à la lecture, n'abandonnant pas le rassemblement, faites ceci en mémoire de moi, chantant de vos cœurs à Dieu. Vous voyez, tous ces actes que l'on fait pour le Seigneur, pour lui directement. je me suis dit que ça pouvait être une activité, par exemple, quand vous prenez le train, que vous êtes là pendant plusieurs heures à ne pas savoir quoi faire, prenez une feuille de papier, essayez de vous rappeler de tous les impératifs du Nouveau Testament. Éventuellement, si vous avez plus de temps, après, cherchez les références. Et je pense que c'est bon de méditer, comme ça, un certain nombre d'ordres que le Seigneur Jésus nous donne. D'aimer les choses qui sont dans sa loi, finalement. Alors, c'est pas que ça va être comme un code de la route qu'on va appliquer ensuite, évidemment. Il faut que ça soit fait avec cœur, mais c'est quand même bon d'avoir des repères. Il ne faut pas se faire d'illusions. Si on n'a pas de repères, si vous dites, moi, je suis guidé par l'Esprit, je suis guidé par l'amour de Dieu, et je fais tout bien, et que vous n'avez jamais lu le Nouveau Testament, moi, je suis certain que vous allez vous tromper plusieurs fois. C'est vrai que le Saint-Esprit, l'amour de Dieu sont suffisants pour nous guider dans toute la vérité. On est d'accord là-dessus. Mais qui peut dire qu'il en est là? Qu'il est totalement dirigé par l'Esprit? Qui peut le dire? Ben celui qui montre tous ces repères qui nous sont donnés dans le Nouveau Testament. Donc il est bon d'avoir aussi les repères. En attendant d'être arrivé à cet état suprême, nous sommes totalement dirigés par l'Esprit.